descendre aussi bas. Vous avez sans doute l'habitude, mais moi, ça me répugne.
Je suis stupide, mais c'est pas grave.
Novorama. Novorama.
Salut et bienvenue dans Novorama. Salut Clément.
Salut Antoine.
Une émission plutôt pop cette semaine en première partie. Et en deuxième, plutôt organique, électronique. Je sais pas comment vous annoncer ça, mais en tout cas, on découvrira l'univers de Makoto San, un groupe marseillais qui veut rester anonyme. On essaiera d'en savoir un peu plus sur eux en deuxième partie. Mais pour commencer, Clément, tu nous as sélectionné 4 disques.
Eh bien, cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Starfucker, de Yard Act, du dernier album de My Life et de Coco.
Très bien, et pour commencer, un retour. On dit que le rock électro des années 2000 revient en force. Preuve en est encore avec le groupe Starfucker qui sort un nouveau disque. Ça s'écrit S-T-R-F-K-R, mais il faut prononcer Starfucker. Ils viennent de sortir un nouvel album, il s'appelle Parallel Realms. Clément, tu vas nous présenter ce disque.
Et oui, et bien que le groupe Starfucker n'ait jamais vraiment fait de pause après l'album Being No One Going Nowhere de 2016, le membre fondateur Josh Hodges a ensuite choisi de sortir une série de démos d'archives. Et après le relatif échec commercial de l'album Future Past Life en 2020, Josh Hodges a sorti un album instrumental intitulé Solo Ambient One sous le même nom de Starfucker. Et bien que certains de ses développements aient certainement été stimulés par la période de pandémie de Covid, certains seront peut-être surpris d'apprendre que le projet refait surface, revitalisé et collaboratif avec l'album Parallel Realms, composé de 17 titres. Il fusionne essentiellement les meilleurs concepts des albums précédents, notamment l'accroche pop, la mélodie, la danse, l'ambiance et l'expérimentation. Il prend la forme d'un album de danse alternative rationalisé, Antoine.
Oui, à cette fin, le groupe a reconnu que le rôle du producteur, Chris Coady, qui œuvrait autant pour Beach House que pour les Yeah Yeahs, qui a été laissé à lui-même et ses machines pour mixer l'album.
Oui, le résultat est un ensemble toujours satisfaisant de chansons synth pop, funky et douce amère, qu'ils écoutent comme un DJ set de près d'une heure. D'une façon ou d'une autre, tout en étant remarquablement cohérent, l'album en propose un peu pour tout le monde, du moins en respectant certains paramètres stylistiques donnés. Le morceau d'ouverture Always Never qu'on vient d'écouter donne le ton avec un riff de guitare qui se lance dans un groove dance pop solide qui est finalement rejoint par les paroles aériennes doublées à l'octave. Le côté implicitement renfrogné de ce morceau et l'approche simple mais stimulante du rythme persistent tout au long de l'album Parallel Realms qui garde l'ambiance détendue avec des cadences rythmiques et des tempos variés ainsi qu'un bref et occasionnel instrumental de liaison et des changements tels que le titre Holding On plus luxuriant et riche en delay, Feelings qui est lui plus entraînant et Chiselers chanté pour sa part en français. Ce dernier met en scène des voix lourdement traitées et des effets laser. L'incertitude mélancolique de Josh Hodges se réaffirme ensuite sur le titre Running Around, Oh Yeah Oh No, et sur des titres comme Lot of Nice Things, dont le post-punk entraînant offre l'une des propositions les plus sombres de l'album, mais seulement de manière relative, car l'effervescence du disque ne s'estompe jamais, et ce morceau se termine sur un deuxième refrain exaltant. Et au moment où l'album Parallel Realms fait ses adieux avec les 7 minutes du titre Leaving, on sort de 55 minutes de musique avec une cohérence comparable à celle des Pet Shop Boys et une tristesse douce amère qui est presque aussi convaincante que ses grooves sont entraînants. On s'écoute tout de suite un deuxième extrait, c'est Chiselers de Starfucker tout de suite dans Novorama. We'll be right back.
Novorama.
I'll let my friend live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid never in late to our letting agent, but we did it.
That's illegal.
I sublet, yeah, I admit it. Document on tape the greatest crime this nation saving grace devised and then committed. I just wanna make a point that the culture would have died, and post-punk's latest poster boys wouldn't have got to ride on the coattails of the dead and claim that their derision is a vehicle for their vision. I've subverted it instead. Now subliminal exposure is exploding in your head, cause you know that we were golden, yeah. One night up in the attic, listening to Grammatics, drinking cans and shooting the shit, we reeled off all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit, and it was to this mantra we would commit.
We make hits to put millennial men, and we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss, we're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, cutting the act is a fact. If you get your back backed up at that, you won't be missed. Now we make hits.
So when we were done kissing, we finally formed this band, and we signed to a subsidiary of Universal Inc. Cause the water keeps on rising, and we know there's no surprising anyone with eyes and ears round here that we're all gonna sink. And we just wanna have some fun before we're sunk. And if that's the attitude you exude, then you know you're really punk.
We make hits to punk millennial men, and we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss, we're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, cutting the act is a fact. If you get your back backs up at that, you won't be missed. Now we make hits.
Nous faisons des hits, nous dit Yard Act à l'instant, dans Novorama, avec un extrait de leur nouveau disque qui s'appelle Where's My Utopia, Clément.
Et oui, avec leur premier album The Overload de 2022, le groupe de Leeds Yard Act s'inscrivait parfaitement dans le cadre du post-punk post-Brexit, tout en réussissant à se démarquer grâce à la voix de James Smith, qui parle sans détour et avec colère de sujets politiques d'actualité, mais dans un esprit tour à tour enjoué et mordant, à l'aide d'un vaisseau musical d'une nervosité contagieuse. L'album s'est hissé à la deuxième place au Royaume-Uni et a obtenu une nomination au Mercury Prize, si bien qu'on se demandait bien quelle tournure prendrait la suite. Il s'avère que le groupe a laissé son pied sur l'accélérateur en revenant avec tous les attributs de leur premier album, tout en élargissant considérablement leur son avec une approche du sampling et du genre. Les inspirations qu'ils ont pu citer vont de Fela Kuti à Ennio Morricone jusqu'à la dance pop des années 2000 et plus encore. Le tout aidé par l'arrivée de Rémi Kabaka Jr. du groupe Gorillaz pour la production.
Oui, puis l'album Where is My Utopia qui en résulte démarre, on peut le dire, sur les chapeaux de roue, hein, Clément.
Oui, avec l'étrange et tortueux An Illusion, qui lorgne du côté le plus étrangement hip-hop du post-punk avec ses scratchs et sa batterie breakée sur des guitares bruitistes. Après avoir évolué vers quelque chose de cinématique et d'étrange, rehaussé à la fin par des cordes, un orgue et des chœurs de type Sunshine Pop, il est suivi par le funky We Make Hits, une diatribe contre les propriétaires et la disparité des revenus. L'insolence se poursuit ensuite sur le titre plus autobiographique Down by the Stream, qui fait appel à un hip-hop old school correspondant aux souvenirs d'enfance des millennials. Et si l'album regorge de coups de gueule mémorables, de confessions pleines d'autodérision et de rythmes festifs, il n'en reste pas moins qu'il offre un véritable coup d'éclat avec les 7 minutes et demie du deuxième titre Blackpool Illuminations. Un récit captivant de type mémoire, ponctué de reniflements et de questions de seconde zone, et souligné par un groove giratoire, du moins jusqu'à ce que James Smith nous coupe l'herbe sous le pied à une minute de la fin. Et parmi les autres propositions, l'énergique Petroleum examine l'auto-sabotage relationnel et la chanteuse-compositrice Katie G. Pearson fait une apparition sur le très entraînant When the Laughter Stops. Voilà, plein d'humour, captivant, chaotique et contagieux. Where's My Utopia est un album qui surpasse facilement leur premier opus, déjà impressionnant. Et on s'écoute un deuxième extrait de ce nouvel album de Yard Act, le morceau Dream Job.
We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss,
that's boss,
class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Slap me is decent. Not bad. It's alright, yeah. Open to find
My Life dans Novorama. On vient de s'écouter un extrait de leur nouveau disque qui s'appelle Chorus, Clément.
Et oui, My Life, ce quatuor de jazz fusion psychédélique basé à Melbourne, qui a remporté un prix ARIA en 2020 pour le meilleur album de jazz, après avoir atteint le top 10 avec leur deuxième album intitulé Automatic. Hélas, à cause de la pandémie, ils n'ont pas pu partir en tournée pour cet album et à la place, ils se sont rendus sur une île fortifiée et abandonnée et ont joué pour la faune environnante. Ils ont enregistré et filmé cette expérience avec Live from South Channel Island, largement salué par la critique.
Oui, puis le troisième album studio du groupe, hein, Chorus, s'inspire de cette expérience et du désir d'évoluer musicalement, Clément.
Oui, ces sept titres offrent une orientation jazz plus funky, qui reflète l'optimisme et la conscience cosmique. Leur fascination pour le psychédélisme des années 70, qui est leur marque de fabrique, se superpose à leur obsession pour le jazz-rock fusion. Ici, ils ont élargi leur vocabulaire en faisant écho aux influences du jazz polonais, de la disco italienne et de la musique électronique. Et ainsi le morceau Forever débute avec des congas, une batterie et une ligne de basse profonde, rappelant l'intro d'Isaac Hayes dans Shaft, avant que le chant n'apparaisse en marge. Le synthé, le piano et la réverbération Dubby encadrent une ligne de basse circulaire avant que le groupe ne livre une funk lyrique et raffinée. Puis le titre Yourself, intensément entraînant, offre un jazz funk fluide, un refrain accrocheur et une interaction chaleureuse et transparente entre la section rythmique, la guitare et les claviers. Il prépare l'entraînant Sunrise qui juxtapose une guitare jouant dans le style R&B américain avec des effets dub post-punk, une piste rythmique fantomatique, une mélodie contagieuse et une atmosphère légère. Puis Musica, le morceau charnière de la playlist, marie les synthétiseurs de Kraftwerk à la showroom de mise à une italo-disco entraînante et prête à danser, à la manière de Giorgio Moroder avec des paroles elliptiques.
Ouais, et la seconde moitié est plus spacieuse et ouverte.
Oui, deux de ces trois morceaux durent plus de 9 minutes chacun. Le titre qui a donné son nom à l'album est instrumental, introduit par des percussions empilées, passé à travers une douzaine de délais analogiques et numériques. Puis le dernier morceau, Return to Centaurus, a déjà inspiré plusieurs remixes. Un vocodeur entonne des paroles philosophiques, tandis que My Life s'accroche à un groove spacieux et psychédélique. Voilà, l'album Chorus est plus fort que ses prédécesseurs, plus axé sur la création de compositions et de productions sans faille. Les grooves entraînants de ce quartet font le lien entre les morceaux et intègrent l'émulation ambitieuse et pleine d'âme du groupe sans jamais perdre le fil. Vous l'entendrez sur ce deuxième extrait qui s'appelle Musica de My Life. We'll be right back.
C'était Coco dans Novorama. Oui, oui, vous avez bien compris, Coco. Clément, ils ont sorti un disque. Tu nous en parles maintenant.
Oui, voilà, le projet de trois chanteurs, compositeurs, multi-instrumentistes. Coco a sorti un premier album éponyme en 2021 qui combinait les humeurs chaudes du soft rock avec la sophistication de Burt Bacharach et une rêverie down-tempo plus moderne. Maya Friedman, qui a pu officier dans Dirty Projectors et Uni IKI, Dan Molad, qui jouait lui dans Lucius et Chimney, et Oliver Hill, qui jouait dans Pavo Pavo et Dust Rider, eh bien reviennent tous les trois avec une suite à la fois similaire et augmentée, intitulée tout simplement Two, écrite, interprétée et produite par le trio, et mixée par Dan Molad et Adrian Olsen. L'album s'ouvre sur le titre Any Other Way, dont le mur sonore frémissant, presque shoegaze, ne ressemble à rien de ce qu'on a pu entendre sur le premier album, avant que la présence des voix harmonisées de Maya Friedman ne guide le morceau vers quelque chose de plus chaleureux et de langoureux. Malgré un son plus abrasif, il glisse rapidement vers quelque chose de plus doux et de plus jazz avec le morceau Mood Rings, qui intègre des synthés modulaires dans une palette basée sur le vibraphone, la basse et les congas. Ce morceau évolue lui aussi vers quelque chose de plus large, impliquant cette fois des cordes, ainsi que la flûte de Logan Hone, le seul autre instrumentiste de l'album. Et Logan Hone est plus présent sur le plus doux For George, dirigé par Dan Molad, qui fait appel à la flûte et au saxophone. L'album continue dans la même veine avec des touches vintage, des lignes de basse animées et des harmonies vocales qui mènent la danse, du moins pour l'essentiel. Il y a de très beaux moments sur l'album 2, comme la double harmonie vocale de Precious Things, les textures organiques et chatoyantes de The Swimmer, et son son relativement plus gros rappelle encore des adjectifs tels que show, hypnotique et rêveur. Et bien que fonctionnant jusqu'à présent comme un projet parallèle, Coco a quelque chose d'intéressant à offrir qui lui est tout à fait propre, comme vous l'entendrez sur ce deuxième extrait, Mythological Man. C'est extrait de ce nouvel album de Coco.
C'était Coco dans Novorama avec le morceau Mythological Man. On passe à la deuxième partie de notre émission. Cette semaine, nous avons des invités Makoto San, ils sont marseillais, alors font de la musique organique et électronique, ils tapent en quelque sorte sur des instruments en bambou, influencés énormément par la culture asiatique. Ils cherchent avec leur musique à réconcilier l'homme et les machines, les sonorités de tous les continents, et racontent le voyage émotionnel du live jusqu'au disque. D'ailleurs, ils sortent donc un album, mais ils sont aussi en live. On pourra aller voir le 17 avril au Café de la Danse à Paris, le 19 avril à l'Espace Julien à Marseille, et le 20 avril au Rockstore à Montpellier. Je les accueille dans l'émission maintenant. Bonjour Makoto San.
Salut.
Vous sortez cette semaine votre deuxième album qui s'appelle Mosso, qui marque en quelque sorte le mariage des percussions et l'électro, une expérience audacieuse transcendant les frontières culturelles et temporelles, interprétant l'Asie à travers le prisme de la French Touch et du Club Dorothée. Cette phrase n'est pas de moi, mais de votre bio. C'est la première fois, je vous avoue, que j'ai le Club Dorothée comme une influence d'artiste. Pourquoi le Club Dorothée ?
Pourquoi le Club Dorothée ? Parce que c'est notre première familiarisation avec l'Asie, on va dire, et plus particulièrement le Japon, qu'on a eu en tant qu'enfant. Et c'est un album qui parle aussi par pas mal de nostalgie, et tu l'as dit, de notre vision de l'Asie à travers notre prisme, qui est celui d'enfants ayant grandi en France dans les années 90. Donc notre premier contact avec le Japon, au final, c'était le Club Dorothée. Donc ça fait un peu partie de nos influences au final, parce que c'est ça qui nous a fait découvrir, par le biais des mangas et des animés, cette culture-là, qu'on a un petit peu plus creusé plus tard. Mais nous, on insiste beaucoup sur cet univers-là, vraiment des animés, l'approche très première du Japon qu'on a tous eu dans l'enfance.
Quoi. Vous regardiez quoi comme dessins animés, par exemple ?
Les grands classiques de l'époque, c'était vraiment Dragon Ball Z, Olivier Tom, Ken le Survivant. Nous, on a un peu de cette époque-là. Avant, là, ce qui sont devenus les grands classiques comme Naruto ou One Piece, nous, on est plutôt époque Club Dorothée.
Donc, vous êtes un peu vieux, alors, quand vous dites que vous avez eu votre enfance au début des années 90, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est notre plus grand secret. En fait, nous ne sommes pas si jeunes que ça. On est plutôt vieux derrière les masques. Effectivement, tu nous as percé à jour.
Je vous ai déjà un petit peu démasqué, en fin de compte.
C'est ça.
En tout cas, alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes masqué donc, alors, sur scène, mais à la manière des personnages un peu de Squid Games, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en combinaison et à la place de votre tête, il y a un cercle. Ça vient de ce jeu ou pas ?
Alors, absolument pas. Pour vraiment préciser les choses, Makoto-san existait avant Squid Game. C'est vrai que souvent, on nous sort la ref, ça ressemble à Squid Game, certes, mais pour le coup, non, on ne s'est pas inspiré de Squid Game. Ni esthétiquement ni quoi que ce soit. Après on est sur scène, on est masqué parce qu'on raconte une histoire avec ce personnage de Makoto-san qui fait référence à la culture asiatique. Souvent on retrouve cette relation entre maître et élève, la notion de l'élève qui trahit le maître, l'élève qui tue le maître. Et donc, chez nous, cette trahison se traduit par un changement d'esthétique musicale assez radical, puisque notre maître, Monsieur Makoto-san, nous a transmis son amour pour la musique acoustique dans sa forme la plus pure, et nous, on l'a transformé en musique électronique. Du coup, trahison, du coup, on se retrouve dans une situation assez ambivalente entre audace, fierté et en même temps honte et trahison. C'est pour ça qu'on a décidé d'assumer cette trahison masquée.
Makoto-san, c'est un personnage fictif ?
C'est un personnage fictif, c'est un conte, c'est un récit imaginaire qui représente le projet.
Alors vous dites que vous êtes fasciné par ces cultures asiatiques. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ces cultures ?
Nous, ce qu'on aime bien, c'est le côté, en particulier au Japon, c'est le côté vraiment too much. C'est vrai qu'on reprend aussi beaucoup ça au niveau de notre live, où on n'hésite pas à avoir quelque chose de très chorégraphié, quelque chose qui, avec des mouvements très amples, quelque chose de très à la fois mystique, mais à la fois qui peut paraître un peu décalé, qu'on retrouve beaucoup pour le coup au Japon.
Ouais, la J-pop par exemple, non ? Enfin, je veux dire, vous écoutez la J-pop par exemple ? Pas du tout.
Non, pas spécialement, mais il y a un côté un peu fascinant sur tout cet univers ultra coloré, ultra dynamique, ultra pop, que nous on va plutôt reprendre. Ça fait pas partie des musiques qu'on écoute, mais par contre ça fait partie des influences visuelles et des influences en termes d'univers, quoi.
quand vous y êtes allé la première fois, le fait que vous repreniez un petit peu leur musique, je sais que les Japonais aiment bien les Français quand ils sont vraiment français, c'est-à-dire qu'ils apportent des chants français, qu'ils sont vraiment... voilà, je sais que la plupart des artistes qui marchent bien au Japon chantent en français.
Alors pour le coup, ils peuvent nous en parler, après savoir exactement ce qu'ils peuvent penser. Il y a aussi une barrière forcément culturelle, quelle pourrait être l'avis. Nous, on n'a jamais eu d'avis négatif sur ce qu'on faisait. Je pense qu'il y a aussi aussi une forme de reconnaissance. Effectivement, peut-être qu'ils préféreraient notre musique si elle était uniquement française, mais pour le coup, nous, c'est pas vraiment ce qu'on fait comme musique, pour le coup.
Oui, puis on l'a pas dit, alors les Daft Punk étaient masqués aussi, et il y avait une fascination aussi pour les mangas. Il y a un album d'ailleurs, il y a un réalisateur effectivement japonais qui a réalisé un de leurs clips. Daft Punk aussi, ça reste une de vos influences?
Bien sûr.
Vous n'avez pas envie de devenir les nouveaux Daft Punk? Maintenant qu'ils sont plus là.
Parce qu'on a des masques, c'est pour ça. Bien sûr que Daft Punk fait partie des influences de Makoto-san, mais pas que, je pense, de beaucoup de groupes dans le monde. Voilà, on ne cherche pas à ressembler au Daft Punk. Juste simplement, on s'inspire, on est français, on a ce côté French touch. Après, on pourrait citer, parce qu'on est marseillais, des artistes comme French 79 ou Kid Francescoli, qui sont aussi des exemples pour nous.
Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le côté un peu Daft Punk, c'est ce qui a transcendé un peu la musique électronique hors de ses frontières. Et ça nous parle pas mal aussi, parce que c'est ce qui a permis à un moment de sortir la musique électronique des clubs. Et nous, on a aussi un peu cette volonté d'ouvrir un peu le champ dans la musique qu'on fait, qui soit pas juste une musique de puriste et qui puisse potentiellement un peu parler un peu à tout le monde. Alors ce sera toujours très compliqué de le faire aussi bien que Daft Punk, qui pour le coup a réussi merveilleusement bien cette action-là. Mais il y a cette idée aussi de décloisonnement avec Daft Punk qui nous intéresse.
Alors justement, sur cet album, l'album que vous sortez en ce moment, Mosso, il y a pas mal de morceaux vraiment différents. On va écouter justement un extrait de ce disque. On va écouter le morceau Hueco Mundo et on en parle juste après.
Para mí el ritmo que más influye para el nacimiento de la cumbia en el aspecto negro y de es el bullerengue. Salgo a investigar en las vacaciones. Ustedes oyen que el cerro es maco. Ustedes oyen de dónde saco yo que la cumbia es india y negra. La saco de las montañas de María.
Wako Mwendo dans Novorama à l'instant avec donc Makoto San. Il ne faut pas dire Makoto San, il ne faut pas toujours évident. Je sais qu'on écorche souvent votre nom. Donc on vient d'écouter ce morceau Wako Mwendo à l'instant. Il y a une influence très latine. Pour le coup, on a parlé beaucoup de culture asiatique jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous intéresse dans la culture latine? Vous mettez pas de frontières en fin de compte, c'est ça?
On met absolument pas de frontières. Et puis, la plupart des membres de Makoto-san sont percussionnistes. Donc, la percussion autorise aussi beaucoup d'aller dans d'autres cultures. C'est un instrument très, très polyvalent. Et bien sûr que la culture africaine et latine nous influence énormément de par ses rythmes ternaires et ce côté un peu syncopé, chaloupé. Donc il y a zéro frontière sur cet album. On a posé nos valises un petit peu partout, pas forcément au Japon. Donc bien sûr que l'Afrique et tout ça fait partie de notre univers musical. Le Japon au final représente les origines du projet. C'est pas une esthétique musicale, c'est pas un fil conducteur, en tout cas musicalement, qu'on veut entretenir avec le Japon. On va un petit peu partout et c'est ça qui fait la couleur de l'album.
Effectivement, votre style est assez unique, hein, ce mélange acoustique, acoustique organique et électronique. Vous dites aussi dans votre bio, l'argument qui accompagne cet album, que les geeks, en fin de compte, ont pris leur revanche. Vous vous définissez comme des geeks Makoto-san?
Alors, on n'est pas spécialement des geeks, mais l'idée des geeks qui auraient pris leur revanche, c'était ce qui était à un moment la culture un peu geek, qui était une culture de niche, est devenue la culture de masse. Et nous, c'est plus sur l'univers un petit peu visuel, sur les références à l'Asie et au Japon. Nous, cette idée-là, c'est qu'on va pas. On a placé ce qu'on appelle des easter eggs, donc des petites pilules comme ça, qui sont des évocations de la culture, et elles sont pas forcément destinées aux esthètes de la culture geek. L'idée, c'est que maintenant, ce référentiel-là de la culture geek, il a envahi tout le monde entier, culturellement. Je pense notamment au rap, aux musiques électroniques, etc. Et l'idée d'un monde où les geeks ont pris leur revanche, c'est quelque part un monde où la culture geek s'est devenue la culture générale. Et nous, on aime bien cette idée-là, en tout cas.
Ça colle beaucoup à l'univers des mangas, en tout cas.
Exactement, ouais.
On va écouter un dernier morceau, extrait donc de votre album Mosso. On va écouter le morceau T'envoler. C'est un morceau qui vraiment se démarque des autres, parce que déjà, il y a une voix, une chanteuse, s'appelle Uzi Freja, si je me trompe pas sur la prononciation. C'est un album avec un peu de rap aussi, hein, on peut dire ça comme ça.
Ouais, pour le coup, là, la rencontre avec Uzi Freya, elle s'est faite à travers nous un petit format qu'on a lancé qui s'appelle Makoto Sound Factory. On invite différents artistes à venir faire un morceau avec nous à l'intérieur de notre grand espace où on crée, où on enregistre tous les locaux. Et pour nous, c'est l'occasion de venir un petit peu explorer différents styles et forcément des styles avec lesquels on n'est pas familier. Et là, l'expérience avec Kelly Rose de Uzi Freya, elle s'est vraiment bien passée. On a du coup documenté tout ça avec une vidéo. On s'est dit, bon, ben, le titre, il est vraiment bien. On a envie de l'intégrer dans notre album. Ce qui explique aussi que du coup, ça sorte un petit peu de notre esthétique globale, parce que c'est aussi la volonté globale de ce format Makoto Sound Factory de pouvoir s'ouvrir à différentes esthétiques. On a notamment fait une autre collaboration avec Théo, qui est un DJ, avec Sisu qui joue de la harpe asiatique, et puis on a un autre feat à venir qui sera également sur notre album.
Très bien, on va l'écouter, ce morceau. Merci Makoto-san, merci d'être passé dans Novorama.
Merci à nous, à vous.
Merci beaucoup.
Yeah. Pull like a bad girl, don't talk to me, give it that side eye. Hot cafe in your face, your mouth done. Make it clear, of course, you're the bad guy. You lie to me, play like a bong bong. Feel like my life was undone. Well, your mom didn't globe you. Maybe you got this bad just like an You say that you love me, bro, that shit was killing me. Softly, I can't breathe, I think it's an enemy. Say goodbye to my fake ass dignity. Vamos lá.
le temps que tu m'as volé. Rends-moi 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 le temps que tu m'as volé. You told him I could be someone, then I got no boss to be a star. You kiss my head to taste the star and send your dog to bark at the star. It's giving obsession, it's giving temptation. It's been nothing this while watching my ass on the television. I got fucked up.
Le morceau « Temps volé » de Makoto San, extrait de leur album « Mosso » dans Novorama. C'est le dernier titre de notre émission de cette semaine. Si vous voulez écouter d'autres nouveautés,